de Radio Classique avec David Abiker.
Il est 8h43 sur Radio Classique. Lucie Robquin et Christophe Barbier sont nos esprits libres du jour. La première est rédactrice en chef aux Échos, le second éditorialiste, comédien et auteur d'un essai tout récent sur les colères françaises. Bonjour vous deux.
Bonjour David.
Je vous propose de commencer notre discussion avec la relaxe de François Bayrou dans l'affaire des assistants parlementaires du Parlement européen. Une affaire qui l'avait obligé à quitter son poste de ministre de la Justice. Et il y a une série intéressante après la relaxe de Dupond-Moretti, puis d'Olivier Dussopt, puis de François Bayrou. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça dit de notre démocratie et de l'exercice du pouvoir ?
C'est quand même une grande victoire pour Emmanuel Macron, parce qu'effectivement, en trois mois, trois de ses proches ont été blanchis, hein, et comme vous dites, Éric Dupond-Moretti, Olivier Dussopt, François Bayrou. C'est la preuve qu'il avait raison de faire valoir la présomption d'innocence et de mettre fin à cette jurisprudence baladure qui voulait que chaque ministre mis en cause se retire. Il pourrait même enfoncer le clou, hein, en nommant François Bayrou peut-être à la place d'Amélie Oudéa Castéra à l'éducation. C'est ce qu'on va voir dans les heures, dans les jours qui viennent. Ce ne serait pas pour réjouir Gabriel Attal, hein, qui verrait un poids lourd entrer au gouvernement, mais ça permettrait à Emmanuel Macron de montrer qu'il reste le chef face à son Premier ministre.
D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse sur Amélie Oudéa Castéra. Tout le monde la voit partante. Le passif est immédiatement plein de cette affaire dégotée par Mediapart. Le système politico-médiatique va vite en besogne, je trouve.
Politico-médiatique, mais aussi politico-syndicalo-médiatique. Oui. C'est la spécificité.
Nos amis syndicats.
Et oui, c'est la spécificité de l'éducation nationale et de quelques domaines, comme par exemple la fonction publique. Si vous n'avez pas un minimum de discussion possible avec les syndicats, c'est très difficile de rester en poste.
C'est la co-gestion, en fait.
C'est un ministère à co-gestion. Alors, la co-gestion, ça peut vouloir dire, dans certains cas, tout céder aux syndicats, et c'était pas bon. Dans d'autres cas, ça peut être un petit peu plus intelligent. Et ne pas faire sans les personnels, ne pas faire contre les personnels, dans un monde comme l'éducation nationale, on peut considérer que c'est légitime. Si la porte est définitivement fermée du côté des syndicats pour cette ministre, ça sera difficile pour Emmanuel Macron de la maintenir en poste. Il a eu raison, et Lucie le rappelait, de dire à la justice, c'est pas vous qui faites les gouvernements. Donc, mise en examen, je garde mes ministres. En revanche, face à des syndicats, face à des corporations qui disent avec lui, avec elle, on ne veut plus travailler, on ne veut plus discuter, dans certains domaines, ça devient difficile. Le ministère des Affaires étrangères, vous pouvez maintenir votre ministre, même si les diplomates sont pas contents de la réforme, et il l'a fait. Sur l'éducation, c'est compliqué. Or, il se trouve que François Bayrou est disponible. Jean-Louis Bourlange, éminent Modem, président de l'Assemblée, président de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée, me disait il y a quelques minutes, la maison brûle, pour rétablir la paix avec les syndicats, François Bayrou a des titres à faire valoir. Et c'est vrai qu'entre 93 et 97, il a été très efficace dans la gestion, la co-gestion avec les syndicats, au détriment peut-être d'un réformisme qui était moins allant qu'il ne l'est, par exemple, aujourd'hui.
Certains disent qu'il a carrément rien fait.
Certains disent cela. C'était aussi le trait du baladurisme à cette époque-là, sur de nombreux aspects. Aujourd'hui, il y a Attal. Gabriel Attal a remis en mouvement la machine réformiste pendant son bref passage à l'éducation nationale, sans se brouiller avec les syndicats. L'addition des deux, ou plutôt la cohabitation, Attal Bayrou. Ça serait intéressant sur ce sujet. Si Macron est à la fois audacieux et machiavélique, il fait ça.
Ça veut dire qu'à l'avenir, les ennuis judiciaires ne seront plus un obstacle au fait de devenir ministre ?
Alors,
De le rester.
Peut-être, c'est aussi la conclusion de Marine Le Pen qui s'est dit François Bayrou est blanchi, je vais être blanchi. Mm-hmm. Attention, les deux procès ne sont pas totalement parallèles. Ici, il s'agissait d'une affaire, si je puis dire, mineure, c'est-à-dire que les fraudes n'étaient pas systématiques. Le préjudice au Parlement européen était d'un peu moins de 300 000 euros. Pour Marine Le Pen, les fraudes ont été beaucoup plus systématiques et on parle de chiffres bien supérieurs. On parle de 7 millions d'euros de préjudice. Donc, il n'est pas certain qu'elle s'en sorte aussi bien que François Bayrou et il n'est pas certain que les ministres d'Emmanuel Macron s'en sortent tous aussi bien à l'avenir. Mais ça. Oui.
Par ailleurs, François Bayrou n'était pas député européen au moment des faits reprochés. Elle a été dans cette machine-là. Donc, c'est un peu plus compliqué pour elle, mais c'est vrai que c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais, en effet, la justice a perdu plusieurs bras de fer avec les politiques et elle doit s'interroger. Elle n'est pas là pour faire ou défaire les gouvernements. Et puis, elle doit s'interroger la justice sur son temps judiciaire. Cette affaire, elle n'était pas si compliquée. On cherchait pas de cadavre. Il n'y avait pas une enquête internationale à mener. On avait les comptes du Parlement. On avait un désaccord sur l'interprétation. Un assistant parlementaire, ça sert à quoi? Uniquement à travailler au Parlement européen ou ça peut servir aussi en circonscription et au parti? Ça pouvait se trancher en quelques mois. Pourquoi 6 ans et demi? Pourquoi 6 ans et demi? Pendant lesquels des hommes et des femmes ont vu leur carrière entravée et le pays n'a pas pu profiter de certains talents. La justice doit s'interroger sur ses méthodes.
Un de nos auditeurs disait, pour les ministres de Macron, ça se passe plutôt bien judiciairement, pour Nicolas Sarkozy, beaucoup moins bien.
Il a des procès derrière lui, il en a d'autres devant lui. Nicolas Sarkozy paye pour un temps où la justice avait décidé de faire de la politique et pensait y arriver.
C'est ce que sous-entendait cette émission. Il disait, Sarkozy, eh oui, en prend plein les moustaches,
exactement,
si j'ose dire.
Et avant Sarkozy, Juppé,
beaucoup mieux.
Sarkozy, Juppé, mais aussi d'autres, hein, Emmanuel pour le PS, il y a eu un temps où les juges ont déclaré la guerre aux politiques et se sont appuyés d'ailleurs sur les médias pour mener cette guerre. Ce temps est en train de se refermer et le moment clé, c'est la perte du procès contre Éric Dupond-Moretti. Parce qu'on était en cour de justice de la République et la CJR a géré, a jugé un bras de fer entre l'institution judiciaire, nous ne voulons pas de ce ministre, et le ministre ancien avocat qui voulait changer cette justice. Eh bien, c'est les politiques qui ont gagné.
Lucie Robquin, on sort d'une phase de tension avec les agriculteurs. Je change de sujet, mais on reste dans la politique. Politique française, mais qui devient européenne. Des concessions ont été faites, notamment sur les normes environnementales. Aujourd'hui, l'Europe, aujourd'hui même, relève ses objectifs en matière d'émissions de CO2. Vous avez attiré notre attention là-dessus. Moins 90% d'ici 2040, décrète aujourd'hui la Commission européenne. Et vous posez cette question, pourquoi relever des objectifs quand on n'a pas pu tenir les précédents?
Mais oui, c'est assez incroyable. On a toujours cette impression que l'Europe veut frapper fort et recule ensuite. On a l'impression qu'elle a vécu dans un monde parallèle ces dernières semaines, qu'elle n'a pas saisi que la transition écologique devait embarquer les populations, devait embarquer les entreprises. Et on a toujours cette impression de stop and go avec l'Europe. Beaucoup se posent la question de savoir s'il est besoin d'aller aussi vite, alors que l'Europe va déjà beaucoup plus loin que les autres régions du monde. Cet objectif de 90% de baisse des émissions à l'horizon 2040, ça va être des efforts considérables pour tout le monde. Ça suppose une électricité pratiquement totalement décarbonée à cet horizon-là. On en est très loin. Ça suppose des efforts immenses pour les agriculteurs. On voit la difficulté à les imposer aujourd'hui. Et puis ça repose aussi sur un pari difficilement tenable, qu'il va falloir stocker des volumes immenses de carbone dans nos sous-sols. C'est quelque chose qu'on ne sait pas faire aujourd'hui. On ne tiendra jamais l'objectif de 90% sans cela.
Mais c'est bien d'avoir des objectifs, même quand on sait qu'ils ne sont pas accessibles. Pour faire une comparaison, on doit avoir pour objectif la paix mondiale, même si on sait qu'il y aura toujours des conflits parce qu'ainsi va la nature humaine. Si on n'a pas cet objectif de paix mondiale, on ne fait pas la SDN, on ne fait pas l'ONU et on laisse tomber. Donc il faut avoir ces objectifs, dire qu'ils sont nécessaires à atteindre si on veut qu'une planète soit vivable, dire aux gens qu'évidemment, ils ne seront pas atteints dans les délais, mais tracer cet horizon. Un horizon, ça ne s'atteint pas, ça se repousse. Mais ça se vise, ça se regarde comme une ambition. Et moi, je trouve qu'il ne faut pas perdre de vue cette ambition-là. Par exemple, on a été tous solidaires des agriculteurs et en effet, on a mis les pieds dans le plat, si j'ose dire, de l'absurdité de certaines normes et de l'excès de normes. Et c'est très bien. Et il fallait donner raison aux agriculteurs. Mais écoutons aujourd'hui l'inquiétude des apiculteurs qui viennent dire votre pause éco-phyto, ce sont des abeilles qui meurent. C'est du miel en moins, en tout cas du miel européen. Donc n'oubliez pas cet objectif-là. Bien sûr, ça donne des injonctions contradictoires. Ça donne parfois des objectifs inaccessibles. Mais l'humanité avance ainsi.
Est-ce que vous troquerez un jour, Christophe Barbier, votre écharpe rouge contre une écharpe verte?
Je l'ai fait pour la COP Paris, l'accord de Paris, où sur scène, avec Marc Jolivet et Nicolas Hulot, j'avais mis une écharpe verte, mais en expliquant au public qu'il était devenu daltonien.
On continue à parler d'écologie. Julien Bayou, en marge de cette crise agricole, quand il a vu les concessions faites par le gouvernement et les concessions obtenues auprès de l'Europe par ce même gouvernement, Julien Bayou a dit « L'écologie a pris une balle perdue pendant cette crise agricole. Est-ce que c'est votre avis ?»
L'écologie politique a pris une balle perdue, c'est certain. L'écologie avance. Moi, je partage l'optimisme de Christophe Barbier. Sachez qu'en Europe, les émissions ont baissé 30% depuis quelques décennies. Aux États-Unis, c'est stable. Donc, on avance beaucoup, beaucoup. Dans l'industrie, les industriels ont fait énormément d'efforts, sans parler des constructeurs automobiles en particulier, qui font vraiment des pas de géant vers cette transition écologique. Donc voilà, l'écologie continue de progresser. Il ne faut pas que cette crise ternisse le bilan global.
L'écologie politique, les écologistes se sont tellement souvent tirés des balles dans le pied qu'ils n'ont pas besoin de balles perdues pour avoir des soucis. Ils prennent les choses par le mauvais bout. Par exemple, puisqu'on parle de balles, la chasse. Pourquoi les écologistes continuent à dire que les chasseurs sont des monstres, qu'il faut qu'ils arrêtent cette barbarie? Si les écologistes pensaient vraiment à l'écologie, ils diraient aux chasseurs, vous êtes aussi écologistes que nous, on va co-gérer. Dites-nous quelles sont vos ambitions, vos inquiétudes, vos aspirations pour votre terroir, et puis nous on va vous dire quelles sont nous aussi nos ambitions, et puis on va voir comment ensemble on peut avancer. Dans le respect des traditions, traditions qu'il faut moderniser, parce que la chasse de grand-papa c'est fini, et puis pour un avenir commun, qui est une nature fertile, féconde, monde et où l'homme
c'est
est heureux.
C'est pas du tout la même culture politique, c'est pas du tout les mêmes racines, c'est pas la même sociologie,
exactement.
Etc. Et ben,
il faut que les écologistes arrêtent de faire de l'idéologie et reviennent au nom du combat pour l'environnement au pragmatisme. Et le pragmatisme, c'est discuter avec les gens qui sont au contact de la nature, agriculteurs ou chasseurs.
La convergence des luttes rurales réinventée par Christophe Barbier. On va terminer avec celle qui s'invite dans la campagne américaine parce qu'elle vend des disques, parce qu'elle a du talent, parce qu'elle est une femme de scène. Taylor Swift, non contente d'être la personnalité de l'année pour Life, non contente d'être suivie sur Instagram par 280 millions de personnes, non contente d'avoir été sacrée dimanche au Grammy pour le meilleur album de l'année, elle vient de rendre publique sa relation avec une star du football américain, Travis Kelce des Kansas City Chiefs, un club de football américain qui a un public pas nécessairement démocrate. Et là, ça plaît pas du tout aux républicains. Ils se disent, mais si elle a un petit copain qui fait très Amérique moyenne, Amérique trumpiste, elle va faire une OPA sur l'électorat trumpiste et ensuite elle va appeler à voter républicain parce qu'elle prend des positions très progressistes. Taylor Swift. Est-ce que c'est le troisième homme de la présidentielle américaine ?
La troisième femme, mais tout à fait. Elle a 34 ans, alors elle ne correspond pas forcément au goût de nos chers auditeurs. Hein. Mais il faut la connaître, elle a un poids considérable dans cette campagne. Elle n'est pas très politisée, mais il suffit qu'elle lâche trois mots pour avoir un impact immense. Par exemple, en septembre, elle avait appelé les Américains, enfin tous ses fans, à s'inscrire sur les listes électorales. Et ben, rendez-vous compte, en 24 heures, les inscriptions ont augmenté de 25%. Donc effectivement, la finale de Super Bowl, c'est dimanche. Elle va être dans le public, elle va influencer un public potentiellement assez conservateur. Très mauvaise nouvelle pour Donald Trump.
Christophe,
oui. Rappelez-vous Bruce Springsteen et son Born in the USA qui avait repris Ronald Reagan à l'époque, puis George Bush pour en faire un hymne républicain. Il avait lutté contre Springsteen en disant « mais non, c'est pas du tout ça ». Bah, il avait été emporté quand même par ce phénomène. D'autres exemples doivent aussi peut-être inquiéter les chanteurs quand vous voulez faire de la politique. Rappelez-vous le sort de Faudel quand il a soutenu Sarkozy. Ça a quasiment mis un terme à sa carrière. Avoir un poids politique quand on est un chanteur ou un artiste, ça peut aussi être à double tranchant.
Merci à tous les deux. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. Nous nous quittons non pas avec une chanson de Taylor Swift, nous terminons avec l'impromptu numéro 4 de Chopin, interprété par Claudio Arrau. Le pianiste chilien est né un 6 février 1903. Merci à tous les deux. À la semaine prochaine, Radio Classique. Il est 8h55.